Bonjour et bienvenue sur l'émission de la classe de 3ème D de Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes qui portera sur la solidarité. Pour que cette émission voie le jour, nous avons eu l'aide de notre professeur de français, Madame Amour, Monsieur Bourget, responsable du CDI, et Sarah de JetFM.
Dans un premier temps, une chronique sur Simone Veil vous sera présentée. Nous continuerons avec une retranscription d'interview faite en Italie, puis vous aurez le droit à une interview faite à l'EHPAD. Nous allons également écouter une chronique sur le film Intouchable. Nous continuerons avec un deuxième micro-totoir qui parle du bien vivre ensemble, puis une chronique sur les réseaux sociaux. Et enfin, quelques brèves. Pour terminer en beauté, nous vous ferons une présentation du slameur et poète Souleymane Diamanka.
Notre chronique portera sur l'honorable personne de Simone Veil. Nous débuterons donc avec une biographie où nous la présenterons brièvement. Elle, ses actions et son parcours. Nous porterons par la suite notre attention sur la question suivante. En quoi incarne-t-elle la solidarité? Puis nous tirerons notre révérence sur une conclusion des plus instructives. Simone Veil. Mais qui est donc cette femme qui a tant bouleversé nos vies? En mars 1944, c'est tout d'abord une jeune femme, juive, qui connaît l'horreur d'Auschwitz. Et cela durant 13 mois. Elle s'en sortira vivante et deviendra alors une femme d'exception. Après des études brillantes de droit et de sciences politiques, elle est nommée ministre de la Santé en 1974. Le 26 novembre 1974, elle prendra la parole à la tribune de l'Assemblée nationale sur la légalisation du droit à l'avortement des femmes. Elle prononce ces quelques mots qui ont contribué à la rendre célèbre. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Elle sera vivement critiquée, mais rien ne l'arrêtera. Et seulement quelques mois plus tard, la loi Veil entre en marche. Toute sa vie, elle s'est adonnée à créer un monde plus libre, plus solidaire, plus égal. Et ce, surtout pour les femmes, dans un monde où celles-ci n'ont pas beaucoup de droits.
C'est ainsi l'une des toutes premières femmes à continuer à travailler, tout en ayant une famille, qu'elle devient ministre de la Santé, des Affaires Sociales, de la Ville, présidente du Parlement européen et membre du Conseil constitutionnel. Toute sa vie, elle sera une femme, qui combattra pour les femmes, mais pas seulement. Pour ce qui est de la question de la solidarité, la question des droits des femmes y est très nettement répondue. Mais il y a aussi des lois qu'elle fera voter en faveur des handicapés, des actions contre la pauvreté et l'exclusion, la lutte contre l'illettrisme, et enfin, une attention particulière à l'intégration des femmes immigrées. Malheureusement, après ce parcours des plus extraordinaires, elle nous a quittés le 30 juin 2017. La solidarité, il n'y a pas besoin d'être à son niveau pour faire bouger les choses. Si tout le monde y ajoute la sienne, alors peut-être que le monde sera meilleur. Pour poursuivre notre thématique, nous partons en Italie avec Faustine, Lola et Noah, qui ont interrogé les habitants de Rome sur la question de la solidarité.
Lola, Noah et moi, Faustine, dans le cadre de notre option latin, nous sommes partis à Rome. Non pas pour perfectionner notre latin, car c'est une langue morte, mais pour aller à la rencontre des Italiens. Nous avons été accueillis dans une famille d'accueil très généreuse et nous avons pu aborder avec elle et notre guide touristique le sujet de la solidarité.
On les a interviewés en leur posant trois questions. La première était
« Qu'est-ce que la solidarité pour vous ?»
Pour eux, c'est le fait d'aider les autres, de leur en venir en aide, même quand on est au plus bas, que ce soit financièrement ou moralement. La deuxième question était
« Préférez-vous dépenser de l'argent pour vous ou pour les autres ?»
Ils préfèrent en dépenser pour les autres. Dès qu'ils ont un peu d'argent de côté, ils font beaucoup de cadeaux à leurs proches, même hors période festive. Puis, pour terminer, la question était
« Quelles sont les associations en Italie qui ont un lien avec la solidarité ?»
Ils nous ont parlé de Cordom, qui est une association italienne qui travaille sur l'intégration des personnes touchées par la trisomie 21, Down, qui signifie syndrome en anglais. Il y a aussi Amnesty, qui est une association qui aide les jeunes migrants. Puis même à Nantes, nous avons une association qui s'appelle Dante Alighieri. C'est une association culturelle italienne et internationale fondée à Rome en 1889. Son objectif est de défendre, promouvoir la langue et la culture italienne à travers le monde, dont ils font part de la solidarité en partageant leurs valeurs.
Les personnes interviewées participent aux associations dès qu'elles le peuvent et dès qu'elles ont les moyens de le faire.
On remercie donc toutes les personnes qui ont répondu à nos questions. Et on passe la parole à Nicolas, Harold, Tom et Henri, qui sont allés dans une maison de retraite pour parler de la solidarité.
Désormais, nous allons faire place à une interview de deux résidents et de un personnel de l'EHPAD C'est ma vie que nous avons été amenés à rencontrer dans le quartier de la Bottière, situé à Nantes. Cette interview portera sur le thème de la solidarité.
Juste vous demander de définir en quelques mots la solidarité.
Bon, moi j'ai travaillé dans les hôpitaux, donc j'ai beaucoup côtoyé de gens très très malades, puisque c'était la tuberculose, donc ils étaient atteints. Donc il fallait être avec eux, pas dire tiens il va mourir, je vais lui faire ci et ça. Non, rester. Moi je dis il faut rester naturel. Bon, c'est vrai que j'ai une grande goule, donc je causais beaucoup avec les malades. Et puis ils étaient contents parce que quand je sortais de la chambre, bah, ils disaient, ils avaient le sourire, quoi. Ils n'avaient plus envie de pleurer ou des trucs. Non, soyez naturels, ne faites pas des chichis, des tralala. Voilà, je sais pas moi, vous voyez quelqu'un qui est pas bien ou une personne âgée qui est mal avec sa canne, vous voilà, allez lui donner un coup de main. Moi je dis voilà, c'est ça, soyez nature, ne cherchez pas des complications.
Alors nous avons également posé la question: comment se vit la solidarité dans leur établissement? La secrétaire nous a répondu que la solidarité apparaît dans les animations, tout comme dans la communication et le fait de s'entraider entre résidents. Lorsqu'il y a un nouvel arrivant, il faut bien sûr l'accueillir dans de bonnes conditions. Lors des repas, le personnel fait en sorte de placer les résidents ayant des centres d'intérêt communs pour qu'ils s'entendent bien et qu'ils trouvent des affinités. La solidarité intervient lorsque le personnel s'occupe des résidents, par exemple dans les animations ou encore pendant les repas.
Ce que nous avons pu retenir de cette interview est que chacun, que ce soit aussi bien le personnel ou les résidents, définit la solidarité de la même manière. Nous avons senti une très bonne cohésion entre les résidents et ceux-ci se disent satisfaits du personnel. Grâce à cette expérience, nous avons pu découvrir les antécédents de ces résidents, nous remplissant de joie et de bonheur.
Et maintenant, une petite pause musicale.
Lil Nas X, I sentence you to 5 years in Montero State Prison.
C'était notre mix. Nous allons maintenant passer à une chronique sur le film Intouchables.
Bonjour, puisque le thème d'aujourd'hui est la solidarité, nous avons donc décidé de vous présenter Intouchables, une comédie dramatique sortie en 2011 et réalisée par Olivier Nakache. Intouchables a eu un énorme succès dès sa sortie et a gagné de nombreux prix dans le monde entier. Cette comédie raconte l'histoire d'une forte amitié entre un riche bourgeois, Philippe, joué par François Cluzet, devenu tétraplégique suite à un accident de parapente, et Driss, un jeune de banlieue, joué par Omar Sy, tout juste sorti de prison, qu'il va engager pour l'aider. Nous avons choisi de vous en reparler, car pour nous, ce film est l'un des meilleurs pour montrer le pouvoir de la solidarité. Car même si Driss et Philippe ne viennent pas du même monde, Driss, un peu contraint au début, va peu à peu aider Philippe par amitié parce qu'il en a tout simplement envie. Voici un extrait du film qui va vous faire comprendre pourquoi il est exceptionnel.
Vous n'allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 euros ? C'est pas possible, ça ?
Bah si, si, c'est possible.
Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond de il demande 30 000 euros ?
Dites-moi, Driss, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art ?
Je sais pas, c'est un business ?
Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
Une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du beurre bonus, si vous voulez.
Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat.
Non.
Donnez-moi un chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein ? Non, je déconne.
Ah, c'est une blague.
Ben oui, c'est une blague.
Ah, c'est une blague.
Elle est bien quand même.
Très bonne, c'est une très bonne blague.
C'est une bonne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous.
Allez.
Elle est chambée.
C'est une bonne blague.
Ben oui. Il n'y a pas de bras, Philippe. J'ai l'affaire à Mark Simpson, c'est dommage qu'il n'y ait pas de public.
Dans cette scène, Driss refuse de donner un chocolat à Philippe en disant « pas de bras, pas de chocolat ». Une phrase qui a du sens, sachant que Philippe est tétraplégique et qu'il ne peut donc pas bouger ses bras. Le fait que Driss rigole sur cela sans aucune retenue tout le long du film est aussi extraordinaire que le fait que jamais Philippe ne va lui dire d'arrêter. Il va même à plusieurs reprises dire à ses proches inquiets comment Driss ne traite pas comme un fragile. Cette production va rapprocher, par la fragilité, deux mondes qui s'ignorent dans une société qui divise. Il nous fait rire de bon cœur. Si nous devions définir ce film par une phrase, elle serait « C'est un film qui montre comment on peut redonner le goût de vivre et la confiance à quelqu'un, au-delà de l'isolement et de la solitude. »
Nous allons vous présenter un micro-trottoir que nous avons réalisé au sein du Collège Notre-Dame de Toutes Aides. Nous sommes allés à la rencontre de différentes personnes qui ont accepté de répondre à nos questions sur le thème du vivre ensemble.
Que signifie pour vous le vivre ensemble ?
C'est déjà l'acceptation des uns et des autres, de la bienveillance envers chacun.
Vivre en harmonie.
Je dirais que c'est être respectueux.
Ça signifie d'accepter la différence avec autrui.
Agir avec un groupe de personnes dans une société donnée.
Ça signifie déjà avoir des règles de vie communes que chacun respecte.
En quoi le vivre ensemble est-il important ?
Vivre ensemble est important pour l'amélioration de notre société.
C'est important que chacun prenne en compte l'autre dans ses différences pour que justement on puisse apprendre de l'un, de l'autre.
Moi, c'est important parce que ça permet de la paix.
En discuter avec les autres pour que les autres fassent également la même chose, les mêmes efforts ou d'efforts.
C'est un peu comme un enrichissement.
Comment pourrait-on améliorer le vivre ensemble selon vous ?
Il faudrait plus que les gens arrivent à accepter les différences des uns et des autres.
Eh bien, on pourrait l'améliorer de plusieurs manières. À l'école, ne serait-ce qu'en rappelant les valeurs de notre démocratie.
Hein. En acceptant les autres tels qu'ils sont.
Dans l'éducation, l'ouverture au monde et à différentes cultures. Ne pas rester bloqué dans un seul système.
En faisant peut-être des activités qui mêleraient les gens pour qu'ils apprennent à se connaître et à se respecter, à se découvrir.
En étant dans une école, je pense que c'est par l'éducation on peut y arriver.
En apprenant à se connaître les uns les autres, pas avoir peur de ce qui est différent de nous. Et après ça, tout le monde s'entendra très bien. Et on aura une belle société grâce à vous.
Nous laissons place maintenant à une nouvelle chronique.
C'est marrant parce que les jeunes, ils les appellent Insta et Snap. Les seniors Facebook et WhatsApp. Et les anciens, eux, carrément, ils les appellent pas. Je parle évidemment des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va tenter de mettre en valeur les bonnes utilisations de ces applications au profit de la solidarité. Nous allons endosser le rôle de défenseur des réseaux. Nous serons les Mark Zuckerberg, le temps de quelques minutes, mais en français et sans la fortune. Avec des utilisateurs qui se comptent maintenant en milliards, l'aspect positif des réseaux n'attend selon moi que d'être mis en lumière.
Certaines personnalités se servent de leur notoriété pour faire passer des messages. La solidarité est portée par la communauté numérique. Les réseaux jouent alors un rôle de tremplin de mobilisation et de sensibilisation à la solidarité. J'aurais tout d'abord envie de parler d'Emma Watson, célèbre actrice que l'on connaît tous pour son rôle d'Hermione Granger dans Harry Potter, mais aussi pour son engagement auprès des femmes et des enfants. Elle est ambassadrice de l'ONU Femmes et agit pour le commerce équitable et le développement durable.
Lewis Hamilton est aussi un très bon exemple. Illustre pilote de Formule 1, il se sert de ses 28 millions d'abonnés pour défendre des causes qui lui sont chères, à une échelle mondiale. Il montre notamment, à travers son compte Instagram, son engagement contre le racisme. Ce genre d'action rend forcément les plus jeunes sensibles à l'actualité, à la solidarité et permet la transmission de valeurs fortes.
Un autre élément majeur est sans doute la période du Covid, qui a permis de se rendre compte de la principale utilité de ces applications. Des chiffres montrent que l'utilisation de WhatsApp a considérablement augmenté pendant cette période. Ils ont permis de répondre à l'isolement. Nous avons cherché à communiquer avec nos proches, malgré les nombreuses contraintes de déplacement, avec notamment les visioconférences. Durant cette longue période, les réseaux sociaux ont permis de garder un lien social important, mais aussi de soutenir les personnes au cœur de cette épidémie. Nous avons surtout vu apparaître énormément d'actions en faveur des soignants. Il y a eu également des hashtags d'encouragement pour les applaudir à 20h, ou pour relayer des demandes émanant de leur part ou de personnes vulnérables.
Moi, j'ai envie de parler d'autre chose. Vous connaissez peut-être pas Twitch, c'est le nouveau réseau social des jeunes. Il s'agit en fait d'une plateforme en pleine ascension sur laquelle nous avons la possibilité d'interagir en direct avec une personne que l'on appelle streamer, qui anime un live. Des événements de mobilisation caritatifs ont été créés grâce à cette plateforme, comme notamment le Z-Event, un rassemblement d'un groupe de streamers se réunissant dans le but de récolter des fonds pour des associations comme Amnesty International. La dernière édition d'octobre 2021 pour l'association Action contre la faim a récolté 10,64 millions d'euros. Le mélange de ces deux caractéristiques rend les réseaux sociaux comme la technologie la plus efficace en termes d'actualité et de mobilisation.
Mais alors, pour résumer, la e-solidarité c'est quoi ?
Alors oui, certes, les réseaux sociaux peuvent être créateurs de harcèlement et destructeurs de sociabilité. Mais nous devons admettre que la solidarité sur les réseaux sociaux est quelque chose d'important et surtout de réel. Ce n'est pas un résumé de likes, mais bien des actions avec un fond concret. Même s'il faut toujours avoir un côté critique et ne pas être dupe de n'importe quelle situation, les réseaux sociaux peuvent aider des personnes qui ont un réel besoin de générosité. Au-delà des bad buzz qui agitent régulièrement ces plateformes, on peut dire qu'ils sont des vecteurs importants de liens sociaux, de soutien et de collecte de dons pour des causes solidaires. Aujourd'hui, ils sont là, présents, partout autour de nous, avec une influence qui ne cesse de grandir. Alors oui, ils sont controversés. Oui, ils sont critiqués. Oui, ils peuvent être dangereux, mais ils peuvent être aussi utiles, porteurs de messages positifs et de bonnes paroles. Tout ça pour dire que ce n'est pas tant le sujet des réseaux sociaux, mais bel et bien l'utilisation que l'on en fait.
Maintenant, place aux brèves.
Depuis 4 mois déjà, face à la guerre en Ukraine, certaines personnes se mobilisent, telles que le collège Notre-Dame de Toutes Aides, qui collecte dans tout l'établissement des produits de première nécessité afin de les envoyer en Ukraine pour aider les rescapés et contribuer à notre échelle à soutenir les Ukrainiens dans cette guerre.
Depuis 37 ans, les Restos du Cœur se mobilisent chaque jour pour venir en aide aux sans-abri et aux plus démunis. Tout cela a commencé en 1985, à Paris, après un hiver des plus rigoureux, qui poussera l'humoriste Coluche a fondé cette association à but non lucratif et il créera leur fameux spectacle Les Enfoirés pour soulever des dons et sauver des vies.
Selon une étude récente de l'Union internationale pour la conservation de la nature, 2430 espèces sont menacées en France et 187 espèces se sont éteintes à jamais. L'effondrement des écosystèmes n'est pas une hypothèse mais une réalité lourde de menaces. Grâce à l'association Agir pour l'environnement qui met tout en place pour atténuer ce problème majeur et pour donner une seconde vie à la planète.
Les associations d'aide aux sans-abri alertent sur le manque de places disponibles cet hiver. À Nantes, pour aider les sans-abri, l'association Les Petits Gilets vient en aide aux personnes dans le besoin et en leur donnant un toit et de la nourriture. Elle réclame au pouvoir public d'étendre leur effort en faveur des sans-abri de France et à l'ensemble des personnes sans domicile fixe.
La solidarité, parlons-en. Dans Solidarité, il y a Sol, cinquième note de la gamme.
Le sol, vous savez, la terre ferme, le plancher des vaches, ce sur quoi nous marchons toute la journée et qui nous permet de nous tenir debout, d'après la loi de la gravité. Dans Solidarité, il y a lit, ce qui me fait penser à mon lit, ce pieu dans lequel je dors tous les soirs, ce pourquoi je ne veux pas me lever le matin. Dans Solidarité, il y a da, ou plus exactement, oui, en russe. Dans Solidarité, il y a riz. Vous avez le choix. Soit ces céréales qui poussent dans les rizières asiatiques, ou bien quand ma bouche se fend d'un large sourire lorsque mes amis me font une de leurs blagues pourries. Pour finir, dans Solidarité, il y a le thé, un breuvage médicinal qui rend ma mère de bonne humeur le matin. Alors pour résumer, la solidarité, qu'est-ce que c'est? Une note de musique, un endroit pour dormir, une réponse positive, un sourire, à manger et à boire, bref, la solidarité, c'est le souci de l'humanité.
Nous arrivons au bout de cette émission et nous tenons à remercier encore une fois Madame Amour, notre prof de français, Monsieur Bourget, responsable du CDI, et toute l'équipe de JetFM. Et nous remercions aussi le département pour son soutien financier. Merci à vous pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre antenne JetFM.
Pour se quitter en musique, nous avons choisi l'artiste Suleiman Diamanka, qui a fait l'ouverture du festival Atlantide en juin 2021. Dans cette chanson, Réponds-lui avec de l'eau, nous pouvons l'entendre dire
« À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main, et j'ai atterri sur scène devant vous. La voix pleine de sourires et pleine de larmes, j'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent leur lourdeur lorsqu'on les partage. Quand on s'écoute, on s'entraide. »
Ce qui fait écho à notre expérience. Nous qui venons de nous lancer dans l'univers radiophonique, un micro à la main.
Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Sache que le seul combat qui se gagne, c'est le duel qui devient un duo. Je sais que les braves savent se battre et lutter pour leurs droits jusqu'à l'aube. Mais dis-leur que la paix guérit et la guerre périt quand la plus belle âme des deux ennemis pardonne à l'autre. Si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau, demain il sera des nôtres. Dehors, ceux qui se nourrissent de l'éclat de l'or essaient de faire peur aux pauvres. Il fait sombre dans les songes que l'orateur peut le colore. Mais il paraît que l'heure la plus noire de la nuit précède de peu l'aurore. Les soleils nomades de l'espoir réapparaissent alors dans les cieux comme des fraises immenses. Si quelqu'un te blesse avec les phrases qu'il lance, pense la plaie en la plongeant dans un de tes vrais silences. C'est ta noblesse d'âme qui t'honore. Ensuite reprends la parole comme une torche qui se rallume au cœur de l'obscurité sonore. Et dis-lui, je te demande pardon. Parlons et repartons. D'après les anciens, quand le chemin n'existe pas, c'est en marchant qu'on crée le chemin. Et quand le schéma émotionnel est juste, pour le poète, c'est l'alchimie. Dis-lui que la vie est une histoire à la fois étrange et charmante. Chaque jour, ce sont des charbons ardents que j'arpente. Dans les jardins du chagrin de chacun, avec ses maisons sans murs et sans charpente. Dis-lui que des gens dorment dehors à la lait d'étoiles, jeunes et vieux en danger. Des yeux rouges et les dents jaunes, certains ont les jambes mauves, la peau froissée par le froid des gens pauvres. Des sosies sociaux, des gens d'ombre, perdus dans des légendes mortes. Tandis que la nuit traduit la misère moderne et son jargon. Je te demande pardon, mais ce droit chemin-là n'est peut-être pas le bon. Y a trop de cordes qui pendent au balcon, trop de colère qui court les rues avec des pleines lunes dans le dos. Par pitié, ma sœur, si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et regarde bien, les âmes errantes n'ont pas semé leurs anges gardiens. L'espoir et la lutte sont des fleurs du destin qui peuvent perdre leurs pétales fins, mais pas leur parfum. Et si toi aussi c'est à la planète Terre que t'appartiens, je te demande pardon. Parlons et repartons, personne n'est là par hasard. À 16 ans, je me suis jeté dans le vide, un micro à la main. Et j'ai atterri sur scène devant vous, quelques milliers de lendemains plus loin. La voix pleine de sourires et pleine de larmes. Sincère comme ce père noir qui repart en pleurs d'un parloir. J'ai eu la chance quelque part d'avoir été sauvé par l'art oratoire. Les douleurs perdent de leur lourdeur lorsqu'on les partage. Même si la plupart d'entre elles ne partent pas, c'est pas grave, quand on s'écoute, on s'entraide.
Les soirées poésie, c'est regarder des êtres humains qui essaient de battre des ailes.